France Inter, le 7-10.
Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, dirige le parquet national antiterroriste depuis 2019.
Et ce procureur, qui fut le premier en France à occuper ce poste, va quitter ses fonctions dimanche prochain. C'est la limite d'âge qui s'approche. Pour qu'on comprenne bien, il dirige une équipe de 30 magistrats chargés de déclencher les enquêtes, d'engager les poursuites judiciaires, de saisir les juges d'instruction et de soutenir l'accusation lors des grands procès en matière de terrorisme. Bonjour Jean-François Ricard.
Bonjour.
Depuis que le plan Vigipirate a été rehaussé au niveau urgence attentat le 25 mars dernier, que pouvez-vous nous dire de la menace terroriste à ce jour en France ?
La principale menace terroriste aujourd'hui en France reste la menace endogène, c'est-à-dire d'individus qui se trouvent déjà sur notre territoire. Il faut simplement se souvenir que depuis que le parc antiterroriste existe, c'est-à-dire bientôt 5 ans, nous avons pu éviter 19 attentats, tous issus de cette menace endogène. Mais ce qui a changé depuis quelques mois, depuis un an et demi environ, c'est la résurgence d'une menace exogène, c'est-à-dire d'une possibilité d'action projetée. Action projetée, nous on s'en souvient lors des attentats du Bataclan notamment, mais on peut également se soucier d'une telle opération aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont en liberté dans le nord-ouest syrien et qui sont issus de notre pays. D'autres se trouvent dans les pays du Maghreb après avoir quitté la zone irako-syrienne. Ils peuvent évidemment revenir sur le territoire européen via l'Espagne ou par d'autres biais. Et puis, tout le monde en parle depuis quelque temps, c'est la fameuse menace de l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire dans cette région globalement, pour faire court, autour de l'Afghanistan.
C'est le retour de l'État islamique.
C'est une autre forme de l'État islamique, c'est une des branches de l'État islamique qui se réorganise et qui n'a plus son centre uniquement en zone irako-syrienne, mais également à partir de cette région beaucoup plus lointaine, et qui peut actionner des individus soit originaires d'Asie centrale, on a beaucoup parlé d'individus venant du Tadjikistan par exemple, soit ou en lien avec les précédents du Nord-Caucase, par exemple du Daghestan ou Tchétchénie.
Alors, le ministre de l'Intérieur a organisé une réunion d'urgence la semaine dernière suite à des menaces de l'État islamique, justement visant plusieurs matchs de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut dire que cette menace terroriste, elle va grandissante, chaque jour grandissante ?
Je ne dirais pas qu'elle y va grandissante, mais je dis qu'elle est sérieuse et qu'il faut la considérer comme telle.
Est-ce que Emmanuel Macron a évoqué hier matin des scénarios de repli pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques prévus sur la Seine ? Est-ce que concrètement, il y a des menaces qui visent les Jeux Olympiques ?
Il n'y a pas concrètement des menaces, c'est-à-dire que ces groupes-là ne vont pas dire « nous allons frapper tel jour, à telle heure, à tel endroit ». Mais il y a une menace globale qui est à prendre tout à fait au sérieux. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Moscou pour le comprendre aisément.
Est-ce qu'il y a, ça c'est la menace d'origine djihadiste, mais est-ce qu'il y a d'autres menaces terroristes issues d'autres mouvances, l'extrême droite par exemple, pas seulement ?
Alors, la menace de type djihadiste reste de très loin la menace principale.
D'accord.
Et elle est prise très au sérieux. Mais, à côté, il y a effectivement une menace d'ultra-droite, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années, puisque une douzaine de dossiers ont été ouverts, plusieurs condamnations lourdes, notamment devant la cour d'assises, ont été prononcées contre les individus issus de cette menace qui préparaient des actions violentes sur notre territoire, et c'est aussi une menace sur laquelle nous sommes particulièrement attentifs.
Qu'est-ce qu'un attentat, Jean-François Ricard ? Je vous pose la question parce qu'il y a quelques jours à Bordeaux, un Afghan a poignardé deux Algériens, il reprochait à ses victimes de boire de l'alcool le jour de l'Aïd. Dans ce crime, le motif est objectivement religieux, il est donc idéologique. Pourquoi n'avez-vous pas retenu la qualification d'attentat ? Ça a fait débat.
La qualification terroriste de certains faits est une qualification restrictive. On ne peut pas et on ne doit en aucun cas retenir une qualification terroriste pour n'importe quelle action violente. Il ne suffit pas d'avoir une motivation politique ou religieuse pour que les faits commis puissent être considérés comme terroristes. Il faut la volonté d'adhérer à une entreprise ayant pour finalité de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est une qualification exigeante, difficile, et il faut, si je puis employer une expression familière, rester dans les clous, c'est-à-dire respecter le droit. Si on commence à vouloir dépasser cette qualification, on peut porter atteinte aux libertés, et c'est particulièrement dangereux. Donc, depuis des années, le parquet antiterroriste reste extrêmement vigilant sur le respect strict de ces exigences juridiques.
On a vu récemment des personnes mises en examen très jeunes, très très jeunes, dans des dossiers de terrorisme. Est-ce que vous diriez que c'est un phénomène récent ? Est-ce que vous diriez que vous êtes de plus en plus confronté à des mineurs ?
C'est exact. C'est un phénomène qui date d'environ un an et demi. Et pour vous donner un chiffre, au cours de l'année 2023, nous avons à 12 reprises demandé la mise en examen de mineurs pour des projets d'action violente déjà assez finalisés.
Ça, c'est quelque chose. Des mineurs de quel âge, par exemple ?
Des mineurs qui, souvent, ont entre 15 et 17 ans. Mmh. Et effectivement, il y a d'une part la présence de mineurs dans ces dossiers-là, et puis d'autre part le fait qu'il s'agisse de mineurs de plus en plus jeunes.
C'est-à-dire pas Comment vous l'expliquez ?
C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors d'abord, il faut être prudent. Nous sommes sur des petits chiffres. Je parle de 12. Dans les années qui précédaient, il y en avait simplement 3 ou 4. Mais vous voyez quand même, passer de 3 ou 4 à 12, c'est un phénomène qu'il faut souligner. Est-ce que c'est un phénomène qui se maintient aujourd'hui en 2024 ? Pour l'instant, oui. S'agit-il véritablement d'une nouvelle génération qui est en train d'apparaître ? Je l'ignore. Il faudra attendre un peu plus longtemps quand même pour le savoir. Les motifs de cette nouveauté, si l'on peut dire de la nouveauté de ce phénomène, tiennent-ils à la présence d'une génération qui n'a connu que le numérique, et qui vit énormément dans le numérique, qui se fait ses relations uniquement à travers le numérique, et qui a une consommation du numérique extrêmement violente, puisque ce sont des gens qui se gavent, on peut dire le terme est extrêmement violent, mais se gavent d'images épouvantables, notamment des vidéos de l'État islamique, des vidéos de décapitation par exemple. Est-ce que c'est cela qui sont habitués
Donc
à
l'ultra-violence ? Donc c'est un phénomène que vous mettez en lien quand même avec le regain, le retour de l'État islamique en matière de propagande et d'impact ?
Cette idéologie-là n'a pas disparu, elle est encore très forte, et effectivement, vous avez tout à fait raison, on la remarque chez des jeunes, très jeunes, qui n'ont pas connu l'État islamique dans l'État où ils se trouvaient, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années.
L'affaire de Bir Hakeim récemment, hein, des coups de couteau donnés pas très loin d'ici, là nous sommes à la maison de la radio, a montré les limites peut-être des suivis des sortants de prison. Que diriez-vous des individus, monsieur le procureur, qui sont passés entre les mains de la justice, qui ont été incarcérés, qui ont purgé leur peine et qui sont libérés ? Est-ce qu'ils constituent des menaces ? Est-ce que la prison joue son rôle en France ?
C'est un des sujets les plus difficiles. Le parquet antiterroriste suit environ 500 condamnés. Un peu plus de la moitié sont encore en détention et les autres sont en milieu ouvert. Toute une série de mesures sont mises en œuvre pour assurer le suivi, mais pendant un temps limité, le suivi le plus strict par des séries d'obligations, voire d'interdictions. Mesures judiciaires, mesures administratives également qui sont prises par ailleurs. L'individu qui est l'auteur des faits commis au pont de Bir Hakeim n'était plus sous surveillance judiciaire. Les délais s'étaient écoulés. Le risque de récidive est tout à fait sérieux pour un certain nombre d'entre eux et il s'agit d'un véritable sujet tout à fait sérieux.
Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont aussi de votre ressort, Jean-François Ricard. Vous rentrez tout juste de Kigali au Rwanda où l'on commémore le génocide Tutsi. Le sol français abrite des complices de ce génocide que notre justice poursuit encore 30 ans après. Combien de personnes ont été condamnées à ce jour et combien de dossiers sont en cours ?
Ce qui a totalement changé depuis 3 ans, c'est que la France juge. Enfin, la France juge des individus qui vivaient tranquillement sur notre territoire, parfois depuis des années, et qui étaient impliqués dans un génocide, voire dans d'autres crimes contre l'humanité qui ont pu être commis sur d'autres théâtres. La France juge, la France a jugé déjà 5 affaires de ce type. Il en aura encore 2 autres qui seront jugées d'ici la fin de l'année. C'est un véritable changement, puisqu'il n'y avait pas eu de jugement de première instance en matière de crimes contre l'humanité depuis 2016.
Merci Jean-François Ricard.